Voilà, bonsoir, que Dieu soit béni. Vous n'avez pas envie de le bénir?
Si, hein?
Je suppose que c'est au plus profond de notre cœur, vouloir bénir Dieu. C'est drôle parce qu'on peut le bénir, mais il nous bénit aussi. Seulement, ce n'est pas le même genre de bénédiction. En tout cas, c'est toujours une joie d'ouvrir la parole de Dieu, comme nous l'avons chanté, « Viens me parler du roi ». Il s'agit du Saint-Esprit. On s'adresse au Saint-Esprit, « Révèle-nous Jésus, viens convaincre nos cœurs, viens faire du bien à nos âmes, visite-nous, remplis-nous de toi et augmente la foi dans nos cœurs ». Il y a quelque temps de cela, quelques semaines, j'étais avec un de mes gendres, au Brésil, et à un moment donné, pendant la réunion, la parole était apportée. Ça faisait à peu près un quart d'heure que la prédication était donnée, et au bout d'un quart d'heure, l'Esprit de Dieu est tombé sur l'auditoire. Il était à peu près 21h15, la réunion avait commencé à 19h, 21h15, et l'Esprit est tombé sur l'auditoire jusqu'à minuit et demi. Là, c'était un message très court, puisqu'il n'y avait pas le temps d'être fini, mais l'onction de Dieu était là. Et dans ces moments, des possédés étaient délivrés, des enfants, 7 ans, étaient baptisés du Saint-Esprit, des gens guéris, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, nous parler du roi. Viens, Esprit de Dieu, augmenter notre voix. Viens nous visiter, c'est là notre désir. Et s'il fallait se séparer à minuit et demi, ça fait rien? Vous allez me dire, oui, mais il ne travaillait pas. Erreur. Le lendemain, réunion de 9h jusqu'à 1h du matin. Juste le temps de prendre le repas, et c'était tout. Et les enfants compris. Une semaine non-stop. Une semaine non-stop. Mais je ne vous dis pas ce qui se passe dans ces moments-là. On est spectateur de ce que le Saint-Esprit fait. Nous l'avons chanté, nous l'avons invoqué, et bien que Dieu nous aide à être remplis de lui pour rencontrer, découvrir Jésus d'une manière extraordinaire. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, deuxième livre des Rois, chapitre 6e, on va même lire à partir du chapitre 7, et je vous expliquerai ce qui se passe dans le chapitre 6, hein, sinon ça serait trop long. Alors, verset 1er, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7h, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or, et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. » Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes, comme elles étaient, les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 16, nous poursuivons la lecture. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Voilà, j'aimerais vous présenter le contexte de cette intervention divine de Dieu. La Bible nous dit que le roi de Samarie était en guerre avec le roi de Syrie, et le roi de Syrie faisait le siège de la ville de Samarie. C'est-à-dire que rien ne pouvait rentrer à l'intérieur de la ville et personne ne pouvait en sortir. Les réserves sont vite épuisées, il ne reste plus rien à manger. Au point, vous allez me dire, c'est écrit dans la Bible. Ce que je vais vous dire, oui, est écrit dans la Bible. Non pas que Dieu cautionne ce que je vais vous dire, mais pour vous montrer à quel état peut être réduit une ville, une nation, une famille, des gens qui vivent sans Dieu. Dans la ville de Samarie, la famine était telle que des mamans avaient eu un enfant. Maman avait eu un enfant, une autre maman, un autre enfant. N'ayant rien à manger, la première a pris son enfant, elles se le sont partagées, elles ont mangé l'enfant. Attention, je ne dis pas que Dieu est pour cela, je ne dis pas que Dieu est d'accord, mais il veut nous ouvrir les yeux pour nous montrer à quoi peut être réduite une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Et le lendemain, la maman n'a pas voulu sacrifier son fils. Et alors elle est allée trouver le roi de Samarie pour lui raconter la chose. Et quand le roi de Samarie a entendu cela, il s'en est pris tout de suite au prophète de Dieu. Vous savez, c'est comme ça dans le monde, hein ? Quand tout va bien, Dieu, c'est la dernière roue de la charrette. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une catastrophe, un tsunami ou autre chose, à qui s'en prend-on ? Ah, s'il y avait un bon Dieu ! N'est-il pas vrai ? Mais oui, il y est. Ce n'est pas lui qui cautionne ces choses-là. Mais il aimerait que les nations se tournent vers lui pour éviter de vivre de tels drames. Je dis bien, Dieu n'a pas cautionné, mais il nous montre la misère dans laquelle peut être plongée une nation, une ville. Et vous allez me dire, vous jugez ces gens-là. Mais il y a quelques mois, et j'étais avec ma femme, avec Colette, dans la voiture, nous entendions des informations. Un homme qui a violé un bébé qui n'avait pas 3 mois. C'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Voilà à quoi est réduite une société qui veut se séparer de Dieu. Une famille, et je passe sur les détails, parce que des choses semblables, on en entend tous les jours, à la télévision, aux informations. On est témoin de choses qu'on nous raconte, qu'on pense inimaginables. Voilà, ça, c'est le monde qui gît sous la puissance du diable. Alors le roi s'en prend au prophète et il envoie une délégation et le prophète dira, parce qu'il recherche Dieu, demain, à la même heure, il y aura de l'abondance pour toute la ville. C'est impossible. Imaginez-vous, je ne prends même pas une ville comme Toulouse, je prends une ville comme Montauban, petite ville paysanne, hein. Je m'excuse pour les Montalbanais, une petite ville. C'est pas bien grand. Admettons 60 000 habitants et on ne les fait pas. 60 000 habitants. Il n'y a plus rien à manger. Absolument rien. Vous pouvez faire tous les commerces que vous voulez, toutes les grandes surfaces. Il n'y a rien à manger. Et c'est la guerre, c'est assiégé. Vous ne pouvez pas sortir, personne ne peut rentrer. Et on vous dira, demain, à la même heure, il y aura de l'abondance pour tout le monde. Quand le prophète a dit cela au roi, il y avait un officier du roi qui était là. Et vous savez que les officiers, dans le domaine de l'histoire de leur pays, ils s'y connaissent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils connaissaient l'histoire d'Israël. Et on ne peut pas parler d'Israël sans Dieu. Ça n'existe pas. Parce que si Israël n'existe, ce n'est que par Dieu. Israël, c'est synonyme de miracle de Dieu. Et quand il entend cela, cet officier dit, « Quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, ce n'est pas possible. » C'est vrai que, humainement parlant, dans notre petite boîte crânienne, on essaie d'analyser, on essaie de dire, mais comment sera possible, etc. C'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Et le prophète lui dira, tu le verras de tes yeux, mais toi, tu n'y goûteras pas. Alors que la ville, le lendemain, sera nourrie, lui, il verra le miracle, mais parce qu'il n'a pas cru, lui, il n'en profitera pas. Et je comprends ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il déclare « L'incrédulité de quelques-uns n'anéantira pas la fidélité de Dieu. » Ça veut dire que si moi je ne crois pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu, mais ça n'empêchera pas la gloire de Dieu de se manifester sur Nathanaël, dans la vie de Joël Prudent, ou dans la vie de Jean-Marie. C'est pas parce que moi, de Jérémie, pardon, hein, c'est pas parce que moi je ne crois pas que ça empêchera Dieu d'agir. Mais ce sera en fonction de ma foi. Alors, vous voyez le contexte. C'est difficile. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Et entre le camp des Syriens et la ville de Samarie, il y a des lépreux. Vous savez que les lépreux, ils étaient bien nulle part, reçus nulle part. Ils vivaient en dehors des villes et ils dépendaient de la gentillesse, de la bonté de gens de la ville, de leurs familles qui venaient leur porter à manger dans des endroits prévus, mais ils ne pouvaient pas les toucher, les aborder, etc. Et là, dans la ville, personne ne pouvait leur porter à manger parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils réfléchissent. Et ils disent, si on rentre dans la ville, on va mourir. Si on reste là, on va mourir. Allons chez les Syriens. Et ils arrivent dans le camp des Syriens. Ils n'entendent aucun bruit, aucune voix. Ça, c'est étonnant. Alors ils se faufilent près d'une tente. Dans la tente, il n'y a personne. Ils entrent et il y a de quoi manger. Vous pensez? Ils mangent. Et puis ils n'entendent toujours rien. Ils sortent de la tente, ils vont dans une deuxième. Et là, il n'y a encore personne. En plus, ils trouvent des vêtements. Eux qui sont couverts de haillons, ils s'habillent. Et puis, ils réfléchissent, mais il n'y a personne. Le camp est vide. Et alors, ils disent, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Il faut aller le dire aux autres. Et c'est là qu'ils vont annoncer la bonne nouvelle au roi, qui reste prudent. Je m'excuse, je ne fais pas un jeu de mots, mais il reste méfiant de cette bonne nouvelle, et puis quand même, eh bien, il ordonne à son officier de garder la porte de la ville, mais le peuple qui a faim, le peuple qui est dans la famine depuis des jours et des jours, eh bien, on dit que ventre affamé n'a pas d'oreille, hein, et il sort, il bouscule l'officier. L'officier qui a entendu qu'il y a de la nourriture, mais il est bousculé, il est piétiné, il meurt, parce qu'il n'a pas cru. Alors j'en viens à ceci. Quatre lépreux qui vont devenir les porteurs de la bonne nouvelle. Et dans la parole, il y a quatre évangiles qui nous apportent la bonne nouvelle de Jésus. Matthieu, Luc, Jean. Ils sont les porteurs d'une bonne nouvelle. Et ils ne pouvaient pas ne pas écrire cela. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile de Jésus. Nous demandons aux gens de lire les évangiles. Nous voulons qu'ils soient imprégnés de l'évangile de Christ, afin qu'ils connaissent la puissance de Dieu au travers de la personne de Jésus. Qu'ils découvrent l'amour de Jésus à leur égard, d'une manière tout à fait personnelle. Non pas par oui dire, mais qu'ils puissent toucher du doigt la puissance de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de taire cette bonne nouvelle de ce que Dieu est capable de faire. Je ne peux pas m'empêcher de dire aux autres ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pas possible. C'est impossible. Il a fait tant de choses. Alors, ils vont le dire. Mais comment les choses se sont passées? Eh bien, le Seigneur nous le dit pendant la nuit. Donc, Ils vont trouver le prophète. Le prophète leur dit, demain, vous aurez de l'abondance. Et effectivement, le lendemain, toute la ville entière peut se nourrir. Mais que s'est-il passé dans cette nuit-là? Eh bien, la Bible nous le dit. Dieu avait fait entendre du bruit dans le ciel. Et les Syriens ont cru que c'était les Samaritains, le roi de Samarie, qui avaient fait appel à des rois étrangers et qui arrivaient, et ils avaient peur d'être pris entre deux feux, et sont donc partis, ils ont fui. Qui donc est intervenu? Dieu seul. Dieu seul, personne d'autre. Dieu tout seul a fait ce prodige et ce miracle, qu'à Dieu soit toute la gloire. Dieu seul, la nuit, est intervenu, le miracle a lieu. Quand Dieu regarde notre monde aujourd'hui et qu'il voit la misère, qu'il voit la souffrance, qu'il voit les personnes désespérées, vous savez ce que dit l'Écriture à ce niveau-là? Dans le livre du prophète Ésaïe, peut-être nous pourrions le lire si ça ne vous dérange pas. Hein, Ésaïe 59, si vous n'avez pas la Bible, je vous le lis. Mais il est dit ceci, au verset 15, la dernière partie du verset 15, donc Ésaïe 59, verset 15. « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Vous avez remarqué? Son bras lui vient en aide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pasteur? Prenez toujours Ésaïe 53, s'il vous plaît, quelques pages avant. Ésaïe 53, et au verset 1er. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Et vous connaissez la suite du chapitre 53? Oui. D'ailleurs, il est tellement clair qu'on l'appelle le cinquième évangile. Hein? Les quatre évangiles, je le répète, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais 53 d'Ésaïe, on l'appelle le cinquième évangile, tellement il est prophétique et il concerne la personne de Jésus. Donc, quand il nous est dit au début de ce chapitre, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui est le bras de l'Éternel? C'est Jésus. Dieu regarde, et dans ce monde, il n'y a personne qui peut venir au secours des êtres humains qui sont esclaves des ténèbres, esclaves du diable, esclaves des passions, esclaves de la souffrance, esclaves d'une double personnalité, esclaves du péché, esclaves de tant d'autres choses. Ils sont là, personne ne peut les aider. Mais c'est évident, comment moi, qui suis moi-même lié, puis-je aider mon frère alors qu'il a besoin? C'est impossible. Qui va nous aider? La Bible nous dit le bras de Dieu. Et le bras de Dieu, c'est Jésus. Et il vient. Et j'aimerais insister sur quelque chose d'étonnant de la part de Jésus. D'ailleurs, à un moment donné, je vous demanderai de crier un nom. Mais je ne vous dis pas lequel. Vous le trouverez de vous-même. Hein? En tout cas, ce n'est pas le mien. Vous tranquillisez-vous. Quand Jésus est venu, depuis sa naissance, il était seul. Pas de place pour le recevoir pour sa naissance. Ensuite, même dans sa ville, il n'est pas reçu. La Bible nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quand ses paroles devenaient précises et incisives, les gens se retiraient au point où ils demandaient à ses apôtres, et vous, vous ne voulez pas aussi partir? Il était seul. Il le dira, il n'a pas un endroit pour se reposer. Régulièrement, continuellement, les gens venaient le tenter, essayer de le séduire, de le prendre en flagrant délit de mensonge ou d'hypocrisie. Son ministère était seul. Quand le moment crucial approche, où il va donner sa vie, il va dans le jardin de Gethsémané, et il va prier. il demande à ses trois de ses apôtres de le soutenir dans la prière. Il prie, il est là, il est seul. Il revient, comment sont-ils ? Endormis. Il est seul dans le combat. Il est seul dans l'obscurité. Seul, il mène le combat au point où sa sueur devient des grumeaux de sang. Il est seul agenouillé face à la mort et à l'obéissance de son père. Il va être arrêté. Il est seul. Même Pierre qui lui avait dit « Oh, moi je ne t'abandonnerai pas. Quand bien même tous t'abandonneraient, moi je donnerai ma vie pour toi. » Jésus est arrêté, mais Pierre n'y est pas. Il est seul. Il est seul au cœur du palais. Les apôtres sont partis. Il est seul quand Pierre est en train de se chauffer et que trois personnes lui disent « Mais assurément, tu fais partie de ses disciples ?» Non, 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 non. Et Jésus le sait, parce que la troisième fois où Pierre le renie, Jésus se tourne vers lui et son regard croit celui de Pierre. Jésus est seul, peut même pas compter sur le soutien moral, spirituel de Pierre. Il est seul devant ceux qui le jugent. Excusez l'expression, il s'amuse avec Jésus. Il le frappe, il lui bande les yeux. Hey, devine qui t'a fait cela. Il n'y a personne pour venir le défendre, pour dire aux soldats, mais arrêtez ! Il est seul. Il est seul à Golgotha. Il est seul sur la croix. Et il faut qu'il passe par là, au point où il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce Dieu qui est son Père céleste, auquel il disait quelque temps auparavant, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Là, il est obligé de crier, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Dieu ne peut pas répondre, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas le secourir. S'il l'avait fait, le prix n'aurait pas été payé. Pour que nos péchés soient pardonnés. Il est seul. Seul, il descend dans les régions inférieures. Je ne vais pas faire de polémique ni de théologie. Les uns pensent une chose, les autres une autre. Je vais vous dire ce que moi je pense. Ça, c'est Guy Galifot. Mais il est descendu dans l'antre du diable lui-même. Sur son propre terrain. Pour le combattre. Il descend dans les régions inférieures, où il y a les anges déchus, où il y a les puissances ténébreuses, les démons, les mauvais esprits, Satan lui-même. Il est seul dans leur fief. Il n'y a personne qui peut l'accompagner. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un disciple, pas un apôtre. Même Dieu n'est pas avec lui là. Mais seul, il a vaincu le diable. Il a vaincu les anges déchus. Il a vaincu les esprits et les démons. Seul. C'est pour ça que la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul nom entre Dieu et les hommes, c'est le nom de Jésus. Oh, mais j'ai envie de le crier, moi. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. N'ayons pas peur de le dire. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Au nom de Jésus, les puissants s'en vont. Il y a quelque temps, je m'excuse, ce n'est pas pour parler du Brésil, mais j'étais témoin de cela. Il y avait plusieurs démoniaques qui étaient là, plusieurs personnes possédées, et il y avait un jeune homme qui était tenu, et puis à un moment donné, un jeune monsieur, à un moment donné, le pasteur a dit, laissez-le monter sur l'estrade, et il est monté. Et puis il a dit, regarde-moi. Et il n'y avait rien à faire, il fermait les yeux, il ne voulait pas regarder. Ça, c'est typique. Il lui a pris le visage, il lui a dit, regarde-moi dans les yeux. Il dit, qui tu vois ? Et l'homme lui a dit, la présence de Dieu et du Saint-Esprit en vous. Ah, tu vois ça ? Bien, au nom de Jésus, sors ! le gars raide délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas Saint Christophe, il n'y a pas Saint Guy, il n'y a pas Sainte Marie, il n'y a rien de tout. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul qui a vaincu le diable. Et d'ailleurs, les démons le savent. Parce qu'un jour, il y a des personnes qui ont voulu chasser les démons d'une personne, d'un homme, et ils ont dit, ah, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Ils savent qui est Jésus. Seul, il a remporté la victoire. Comme fait cette fameuse nuit entre la Samarie et le camp des Syriens, Dieu seul a agi. Eh bien, la Bible nous dit, Dieu seul est intervenu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous bénir. C'est la raison pour laquelle il n'y a que le nom de Jésus que nous voulons élever. C'est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Et s'il est vrai qu'il est mort sur la croix, s'il est vrai qu'il est allé dans les régions inférieures où il a vaincu le diable, c'est pour ça que la Bible nous dit, dans l'épître de Paul aux Colossiens, il l'a dépouillé de son autorité. Moi, je suis content. Que Dieu soit béni. Satan est dépouillé. Je veux que vous le sachiez, que ça puisse rentrer là, jusque là. Il est dépouillé. Il n'a aucun droit. Il n'a aucune autorité. Aucune puissance sur vous. Il a été dépouillé. Alléluia. Quel merveilleux sauveur. Mais il est ressuscité. Il n'y a rien à faire. Le diable n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter. Les légions démoniaques n'ont pas pu empêcher Jésus de ressusciter. Les mauvais esprits n'ont pas pu. Les anges étaient là, ils n'ont pas pu l'empêcher. Oh, que Dieu soit béni. C'est extraordinaire, ça. C'est le seul nom qui a triomphé. C'est le nom qui remplit notre cœur. Alléluia. C'est extraordinaire. Le nom de Jésus. Formidable. Il n'y a qu'un seul sauveur. Personne n'a pu aller dans l'antre du diable pour le vaincre, mais Jésus l'a fait. Je comprends pourquoi Dieu dit, et son bras lui est venu en aide. Et maintenant, il le fait pourquoi ? Pour nous montrer que le prix a été payé, que Satan a été vaincu, et que celui qui croit en Jésus, il peut vivre la bénédiction. Qu'est-ce que le peuple a eu à faire ? Pas grand-chose. Ils sont sortis. Et ils sont allés se servir. Ils n'ont plus qu'à se baisser et à ramasser les bénédictions. C'est tout ce qu'ils ont fait. Parce que la victoire avait été remportée. Que Dieu soit béni. La victoire a été acquise par le Seigneur. C'est pour ça que nous devons croire. Comme le peuple, ils sont allés. Ils ont cru, ils ont reçu. Est-ce que vous voulez croire ce que Jésus a fait pour nous, pour vous? Ce qu'il a fait pour le monde entier. Est-ce que vous êtes prêts à le croire et à recevoir sa bénédiction et sa grâce? Tout seul, il le fait. Tout seul. Il y a une de nos sœurs qui est là, je la regarde, elle est au fond. Elle va se dire, qu'est-ce qu'il va raconter? Il y a quelques années, dans la région où nous étions, il y avait une dame qui avait un cancer au sein. Je ne veux pas expliquer tous les détails. En tout cas, elle souffrait. Son sein était tout noir, sein gauche. Elle avait des glandes sous le bras, elle ne pouvait pas se servir du bras. Et ça, c'était le lundi qu'elle me le disait. Le mercredi, on faisait une réunion chez elle. Il faut dire que tous les 15 jours, on faisait des réunions. Et on se trouvait parfois 12, 15 personnes. C'était à 45 km de la ville où nous habitions. Et ce mercredi soir, il y a eu un moment particulier, un moment de visitation, un moment où le Saint-Esprit était là, présent. Et pendant ce moment, elle a été bénie. Et le soir, elle s'est couchée. Et le dimanche, quand elle est revenue, donc c'était le mercredi dans la nuit, le dimanche, quand elle est revenue, elle m'a expliqué, « Frère, dans la nuit du mercredi au jeudi, pendant que je dormais, j'ai vu une main apparaître. Et une main qui s'est posée sur mon sein, comme si les doigts rentraient. Et puis cette main tirait. Et chaque fois qu'elle tirait, que je ressentais une douleur, cette main s'arrêtait jusqu'à ce que la main sorte avec une masse noire et comme des tentacules. la main m'a fait voir cela. Je me suis réveillé et je louais Dieu en esprit. Je précise que c'est biblique. Vous vous souvenez ? Mene, mene, tekel, urfassin. Parce que c'est, lisez le livre de Daniel. Vous comprendrez. La main de Dieu. Elle n'a jamais été opérée d'un cancer du sein. Son sein était normal le jeudi. Plus rien. Que Dieu soit béni. Il y a une sœur qui la connaissait. Elle est partie avec le Seigneur, bien âgée. Qui a fait cela ? Dieu seul. On n'a même pas prié pour elle. Dieu seul. J'ai connu dans une île une dame très forte, très grande. C'était la dernière réunion d'évangélisation dans cette île. Alors, il y avait eu un moment avant de recherche du baptême du Saint-Esprit. Pendant cette réunion, Dieu l'avait baptisé du Saint-Esprit. Et la réunion commence, un frère faisait chanter. Elle était tellement remplie qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Puis elle avait de la voix. Hein. Et après les chants, je commence à apporter la parole. Tout en apportant la parole, elle continue à louer le Seigneur en esprit. On ne pouvait pas l'arrêter, elle était visitée, c'était incroyable. Et après la réunion, elle est rentrée chez elle. Elle avait un petit garçon de 4 ans qui était né infirme et qui n'avait jamais marché. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a ouvert la porte. Son enfant était debout, il marchait et il l'attendait. Qui a fait le miracle ? On n'a même pas prié pour lui, je ne savais même pas moi-même. Dieu seul. Dieu seul. Dans une autre île, on avait un papa qui était là à la réunion et il était déjà venu plusieurs fois aux réunions mais il ne s'était pas converti. Et ce soir-là, ben, Dieu l'a touché. Il avait deux jumelles, ce que je ne savais pas. Et elles étaient nées toutes les deux aveugles. Et quand il est rentré chez lui, les deux jumelles voyaient. Les deux. Heureusement. Heureusement. Qui a fait ce miracle ? Dieu seul. Lui, il était à la réunion. Les petites, elles étaient chez elles. Dieu seul. Le combat de Dieu pour le roi de Samarie, c'est Dieu seul qui l'a fait. Qui leur a donné à manger ? Dieu seul. Et il nous dit maintenant, eh bien, mon bras m'est venu en aide, Jésus. A dit dans le ciel, me voici, envoie-moi. Et il est venu. Il a remporté la victoire sur l'adversaire de nos âmes. La Bible nous dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, je suis content. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, je peux ramasser ce que j'ai besoin. Les résultats de son triomphe, de sa victoire. Ça peut être pour ma guérison. Ça peut être pour mon âme. Ça peut être pour mon mental, ça peut être pour d'autres domaines. Je peux simplement, par la foi, comme l'a dit tout à l'heure notre frère dans ses chants, par la foi, je peux prendre, ramasser, acquérir pour moi les bénédictions de la victoire et du triomphe de Dieu. Oh, c'est formidable ce que Dieu peut faire. Quand ma femme a été guérie, elle avait des colonies de colibacilles dans les reins. Elle souffrait beaucoup. D'ailleurs, le cobaye sur lequel, cobaye c'est un cochon d'Inde, sur lequel avaient été faites les analyses, était mort. On pensait même qu'elle avait la tuberculose rénale, 18 ans. Et la dernière crise qu'elle a eue, moi j'étais à l'armée à l'époque, j'étais en Algérie, elle était en Solex, elle est tombée devant un poids lourd. Et c'est le chauffeur du poids lourd qui l'a ramenée à la maison, chez elle, 18 ans. Et puis, je passe sur beaucoup de détails, elle est venue à une réunion, et quand elle est venue, elle a entendu le message de l'évangile d'une certaine manière qu'elle n'avait pas entendu jusque-là, et son cœur a été touché. Elle est venue à l'imposition des mains pour être guérie. Apparemment, rien ne s'était passé, sauf dans son âme. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait quelque temps qu'elle ne venait plus à la réunion. Et là, elle a retrouvé ce contact avec Dieu. Et la réunion suivante, elle était là, quelques jours s'étaient passés, elle était là, et à nouveau l'évangéliste prêche la parole, et puis au moment de l'imposition des mains, il demande au malade de se lever. Et puis elle était sur sa chaise, d'ailleurs à cette époque-là, elle avait le petit garçon de l'évangéliste sur ses genoux, c'était un petit maintenant. Bon. Et elle a dit, « Seigneur, j'y suis allé une première fois, je n'ai pas besoin d'y revenir, ça doit suffire. » Et au même instant, elle a senti sur son corps comme une puissance la traversée et qui s'éloignait par les mains. Elle a eu juste le temps de prendre le petit qui était sur ses genoux, de le mettre à côté et elle est tombée. Elle est tombée évanouie. Alors les gens ont attribué à la chaleur, enfin chacun disait son petit mot, quoi. Et quand elle est revenue à elle, sa mère lui a dit, « Dieu t'a guéri, elle a dit, je sais. » Elle a refait tous les examens, et nous avons toujours les feuillets hein, du laboratoire, Faubourg du Moustier, laboratoire Laforgue à Montauban. Tous les examens, plus aucune trace de colibacillose. Le médecin à l'époque, je travaillais à l'hôpital, au centre hospitalier de Montauban, le médecin nous a dit, quand nous sommes mariés, pas d'enfant, parce qu'elle ne pourra pas le garder, et ce sera la vie ou de la maman ou de l'enfant, ou les deux. Et Dieu nous a donné des enfants. Et jamais plus elle a eu de colibacillose. Pourquoi ? Elle l'a cru. Vous voyez la différence entre les gens de Samarie. Ils ont faim, on leur dit, il y a de l'abondance dans la ville, ils croient, ils courent. Et l'officier, oh, est-ce que Dieu pourrait faire des fenêtres au ciel ? Bien, tu le verras. Mais toi, tu n'y mangeras pas. Et ce soir, c'est la même chose. J'aimerais vous dire, Christ a vaincu le diable. Il a triomphé tout seul. Et il nous dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus. En mon nom, il le fera. Est-ce que je le crois ou est-ce que je doute? Est-ce que je le crois et je vais recevoir, je vais en bénéficier, je vais en profiter? Ou alors je me pose des questions, oui, mais c'était bon il y a 2000 ans du temps des apôtres, mais aujourd'hui les choses ont évolué, puis on a une certaine médecine, etc. Crois ce que tu veux, mais à tous ceux qui l'ont cru, ah, Dieu donnera le pouvoir, non seulement de devenir enfant de Dieu, mais d'être héritier de Dieu. Héritier de Dieu, c'est héritier de toutes les promesses, héritier de toutes les bénédictions. Oh, que Dieu soit béni. Il faut que je m'arrête, parce que quand je suis comme ça, j'aurais tellement envie de parler, de dire ce que Dieu fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il peut changer bien des choses dans une vie. Il peut te retirer de la boue du péché. Il peut faire taire tes ennemis. Je dirais même mieux, il peut les mettre pour toi, les retourner. Il peut faire tellement de choses. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu pour cela. Tu ne le déranges pas, tu ne l'ennuies pas en t'adressant à lui. Il est venu pour cela. C'est comme si tu disais, je suis malade mais je ne veux pas déranger le médecin. Ça veut dire quoi ça? C'est insensé. Tu es malade, il y a des médecins qui sont faits pour les... Ben oui, les médecins ne sont pas faits pour les gens en bonne santé. Et la Bible nous le dit. Eh bien Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont là dans la souffrance, il le dira, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Alléluia. Moi je me réjouis. Jésus est venu pour cela. Alors ne le privez pas de la joie de vous faire du bien, de vous bénir. Il en a payé le prix, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il dit maintenant tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous croyez qu'il peut répondre à ma prière? C'est pas trop lui demander. Oh non. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il est formidable. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Oh combien il est digne d'être adoré, d'être aimé. Il est le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Et nous sommes obligés de la partager. Je ne peux pas taire ce que le Seigneur a fait. Je ne peux pas taire ce qu'il veut accomplir. Je veux dire qui est Jésus. Est-ce que vous voulez vous approcher d'un tel sauveur? Peut-être vous pensez, oui, mais je n'en suis pas digne. qui est digne. Puis de toute façon, vous ne le méritez pas. C'est grâce. C'est par grâce. Et dès l'instant où je le mérite, ce n'est plus une grâce. Mais c'est par grâce qu'il répond. À Dieu soit toute la gloire. Il est là. Il est présent. Il est au milieu de nous. Et il veut confirmer sa parole. Sa foi vient de sa parole. Les quatre évangiles nous parlent de Jésus, nous parlent de sa victoire, tout seul, aujourd'hui. Est-ce que je peux mettre toute ma foi dans ce nom de Jésus? Ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom extraordinaire. Le nom de
Jésus.
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. On pourrait dire beaucoup de choses sur le nom de Jésus. Je m'arrête là. Le nom de Jésus. Jésus. Moi, je crois que Jésus est au présent au milieu de nous, par son esprit. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts à le louer, à l'adorer? Alléluia. On va le faire. Hein? Oh, béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, de ce que si tu n'as trouvé personne sur la terre, pour venir au secours des hommes dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur défaite, dans leurs échecs. S'il n'y avait personne sur la terre pour sauver les semblables, béni soit Dieu de ce qu'en dans le ciel, le Fils de Dieu Jésus-Christ a quitté le ciel de gloire. Il s'est dépouillé pour venir au milieu de nous sur la terre. Et là, il nous a révélé l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Il nous a révélé le triomphe par sa propre victoire, le triomphe sur Satan. Et maintenant, à tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui se repentent, à tous ceux qui veulent changer de vie, à tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur existence, tu leur donnes maintenant le pouvoir de voir la gloire de Dieu se manifester. Maintenant, cher Sauveur, maintenant, réponds à la foi de ces bien-aimés. Réponds maintenant, cher Sauveur, toi qui as vaincu le diable, toi qui as triomphé, toi qui l'as dépouillé, maintenant tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Maintenant même, au nom de Jésus, qu'il y ait des libérations, qu'il y ait des victoires, qu'il y ait des triomphes, qu'il y ait des bénédictions, des guérisons. Ô Dieu, glorifie-toi maintenant, selon ce que tu as fait, le bras de Dieu, le bras de Dieu, au nom de Jésus. Merci, cher Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es dans ce lieu, Seigneur. Tu es présent maintenant, alléluia. Maintenant, que tous ceux qui croient en ta parole, tous ceux qui croient en ton nom, puissent être bénis. Et je veux les bénir au nom de Jésus. Je veux qu'ils puissent savoir que Dieu seul veut leur faire du bien maintenant. Amen, 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 alléluia.